Documentaire, reportage.
Un podcast proposé par Regard Protestant.
Pourquoi fêter le centenaire de la présence de la faculté de théologie à Montpellier ? Les amis de la faculté se souviennent peut-être qu'en 1996 a eu lieu une grande fête, la fête du 400e anniversaire de la faculté. Donc, il est légitime de se poser la question. En fait, en 1996, on a fêté les 400 ans de la première leçon de théologie protestante à Montpellier, puisqu'il y a eu, à cette période-là, une académie qui s'est créée très modestement et qui a fonctionné jusqu'au début du XVIIe siècle, avant d'être en quelque sorte incorporé à l'Académie de Nîmes. Mais il faut attendre 3 siècles pour qu'en 1919, l'enseignement de la théologie protestante revienne à nouveau à Montpellier avec le transfert de la faculté de théologie qui était jusque-là à Montauban. Alors, pourquoi Montpellier ? La question, évidemment, se posait de l'implantation de cette faculté. Il fallait avoir, dans les conditions exigées par l'Église, une population assez importante au niveau protestant pour pouvoir soutenir la faculté et les professeurs et leurs familles, puisque jusqu'en 1905, tous ces frais-là étaient assurés par l'État. Donc là, à partir du moment où l'Église devait assurer le bon fonctionnement de la faculté, il a fallu chercher une implantation où les protestants étaient suffisamment nombreux et relativement aisé pour pouvoir soutenir une telle institution. Et puis, l'autre critère très important, retenu par l'Église, était la présence d'une université. Et là, Montpellier, évidemment, avec son université très ancienne, faisait partie des villes les mieux placées. Alors, quand la faculté s'installe à Montpellier, elle prend place dans une maison qui avait été achetée par une société civile immobilière. Cette société civile immobilière étant constituée par de riches familles protestantes qui avaient tout un réseau, y compris à Paris, à Bordeaux, pour pouvoir financer cet achat. Et donc la maison appartient, ou appartenait plus exactement, à monsieur et madame Charles Gide, le célèbre économiste protestant originaire de Nîmes. Donc la faculté s'installe dans cette maison, qui était en fait une maison d'été, une villa bourgeoise à la campagne à l'époque, avec un superbe parc derrière et puis une vue dégagée sur les vignes. Seulement, là, évidemment, ces locaux sont bien moins vastes que ce qu'ils étaient à Montauban et on a au début pas mal de difficultés pour loger tous les étudiants et les professeurs sont obligés de se loger ailleurs. Des travaux s'engagent dans cette maison, agrandi déjà dès les années 30, notamment pour caser tous les ouvrages de la bibliothèque. On construit autour de la maison un centre universitaire protestant, le CUP, pour pouvoir accueillir des étudiants théologiens et non théologiens, et plus tard des étudiants d'outre-mer. C'est la grande idée du doyen Henri Lénard, à l'époque, dans les années 1950. Le CUP se construit avec des fonds qui viennent pour une grande partie de l'Amérique, de l'Union Seminary de Richmond. Dans quel esprit avons-nous voulu fêter ce centenaire ? En fait, c'est parti d'un petit projet de recherche avec un groupe d'étudiants de master, de recueillir la mémoire d'anciens étudiants, d'anciens habitants du CUP, et de remonter aussi loin que l'on pouvait, et de travailler aussi parallèlement, bien sûr, avec les archives. Mais nous voulions mettre en avant comment la mémoire travaille. Et donc les étudiants ont procédé à des interviews, à des recherches, qui seront donc mises à disposition sur le site internet dédié au centenaire et qui feront aussi l'objet d'un petit ouvrage. En fait, nous avons voulu faire une sorte d'hommage à tous ceux qui ont traversé ces 100 ans de l'histoire de la faculté à Montpellier. Nous avons voulu aussi mettre en évidence certains épisodes peut-être pas très connus de l'histoire. Alors, bien sûr, on connaît dans l'histoire de la faculté ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, les actions de la résistance des professeurs et des étudiants. Mais il y a d'autres épisodes de la même période qui sont moins connus. Je pense par exemple aux quelques relations que la faculté avait avec le camp de prisonniers de guerre allemand qui était à Montpellier, un camp dans lequel on avait regroupé des étudiants en théologie. Et donc, il y a eu pendant plusieurs mois, en 1945 et 1946, un des échanges entre la faculté notamment, et ce camp de prisonniers, notamment par le biais de prêts de livres depuis la bibliothèque. Ces pasteurs de l'école de théologie allemande sont ceux qui ont tout reconstruit chez eux ensuite, après la guerre, qui ont construit l'église protestante allemande. D'autres épisodes sont aussi mentionnés. Nous avons voulu mettre en relief les relations internationales. Donc une étudiante a travaillé sur les relations avec la faculté de Heidelberg, qui sont très anciennes, qui commencent pratiquement dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, ce qui est donc évidemment très important pour la réconciliation franco-allemande. Un groupe d'étudiants en anglais a travaillé aussi sur les relations avec la faculté de Richmond, à partir des archives, notamment une archive sonore tout à fait intéressante.
À la fin de la guerre, vous avez granted one of our students a scholarship in your seminary's name. Members of the faculty, members of the student body, you were the first to receive Jean Abel in your community and to make this house his home. You were the first to ask him questions about the life in the post-war times in our seminary, and we and Jean Abel, you were the first to realize that the brethren in Montpellier were members of your community, and the first to give them a share in your prayers, the first also to undertake this marvelous effort to relieve them in their need.
Et puis, il y a aussi la mise en valeur de quelques grandes figures de la faculté. Je pense au professeur Fischer, Wilhelm Fischer, qui était un résistant de la première heure, un ami de Karl Barth, qui a fui l'Allemagne nazie et qui ensuite s'est installé à Montpellier. Nous avons là une archive aussi tout à fait intéressante, puisqu'on a pu retrouver un petit film tourné peu de temps avant sa mort sur lequel il revient sur ces épisodes de sa vie.
Einer der Chefärzte, der Dr. Löhr, und der wurde ergriffen vom Nationalsozialismus. Der hörte einmal Hitler und man nahm ja an, nicht nur die Ärzte in Bethel, die waren alle fromme Leute, aber da hat er gesagt, zum ersten Mal habe er bei Hitler gehört, was dein Glaube ist, der Berge versetzt. Ja. Und da wollte er einfach irgendetwas machen. Er wurde dann Leiter auch einer, ich weiß nicht, wie hoch sein Grad war, ziemlich bald, war ein sehr kluger Mensch natürlich und bedeutender Mann und hat dann irgendetwas machen müssen. Ja. Und da dachte er, wir kannten uns gut, den Peter. Er leitete auch einen Chor, in dem ich mitsang und wir hatten uns gern. Aber er meinte, wenn jetzt die Verhältnisse so sind in Deutschland, dann gehe ich lieber in die Schweiz zurück. Und es würde keine Schwierigkeit geben, wenn er dafür sorge, dass er mich herausbringt. Und da habe ich eben widerstanden. Habe ich gesagt, also ich lasse mich nicht von irgendeinem Nationalsozialisten absetzen, wenn ich eingesetzt bin von Bolschewen.
Ja. Nous avons aussi, dans les figures un petit peu oubliées, le doyen Henri Lénard, qui était un scientifique et qui permet aussi de voir toute la tradition scientifique à Montpellier. Il y a aussi, bien sûr, le professeur Louis Perrier. Nous avons encore d'autres figures. Par exemple, une figure que la mémoire conserve encore, puisque ses étudiants sont toujours là, le professeur Hainaut, qui était à l'époque un spécialiste de Luther et qui a traduit beaucoup d'œuvres de Luther en français. On voudrait aussi insister sur les documents que plusieurs personnes nous ont confiés. Beaucoup d'anciens étudiants ou d'anciens habitants du CUP nous ont donné des photos qui seront numérisées petit à petit et mises sur le site internet. Et ces photos sont assez émouvantes puisqu'on peut voir plusieurs générations de pasteurs depuis les années 20 pratiquement jusqu'aux années 2000.
C'était Documentaire Reportage,
un podcast de Regards Protestants.